fâché. Bipolaire, c'est leur love quand t'as cravaché. Et l'un qui mort vous ferie quand nous pas fâché.
Pas ni amende.
On fait pas ni amende. Yo, amène, que c'est yen qu'a mordé. On en tue père, on parle, on amène. On fait pas ni amende. On fait pas ni amende. Yo, amène, que c'est yen qu'a mordé. On en tue père, on parle, on amène.
Radio de la paix, il est 12h. Le journal de midi, Paul-Bénédicte Bolou.
Il est 12h, madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans le journal de ce vendredi 19 mai. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire prône le rassemblement, la cohésion sociale et les relations empreintes de respect à San Pedro pour le développement de la région. Lors d'un point de presse, Claes Sylvanus a dit vouloir mettre tout en œuvre pour éviter des troubles lors des prochaines élections municipales et régionales. Des activistes, blogueurs, influenceurs et représentants de la police scientifique ont été sensibilisés et instruits sur leurs responsabilités en matière de diffusion des contenus audiovisuels en ligne. C'était au cours d'une table ronde initiée le mercredi 17 mai par la ACA. Hors de la Côte d'Ivoire, en RDC, l'organisation des laïcs catholiques qui était en première ligne dans les manifestations politiques de 2018 revient à la charge cette année et promet de nouvelles manifestations afin, dit-elle, de faire entendre l'exigence du peuple souverain lors de la tenue des élections. Dans les dernières minutes de ce journal, vous suivrez l'invité de la rédaction Thierry Jean-Gervais, député de Bloléquin, par ailleurs vice-président du PPACI en compagnie de Soro Adams, se prononcera sur la création par ce parti politique d'un organe de lutte contre la fraude électorale dénommé Sentinelle Antifraude Électorale. Voilà pour l'essentiel. Une tournée de sensibilisation des populations de San Pedro sur la cohésion sociale initiée par Claes Sylvanus, militant de base du PPACI, Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, s'est tenue récemment. Les priorités pour un développement de San Pedro et la nécessité d'un climat électoral apaisé étaient quelques sujets abordés lors de la conférence de presse de clôture. Des détails avec Kofi Benson, notre correspondant dans la région du Bas-Sassandra.
L'idée de cette tournée après 10 ans d'exil est justifiée par Claes Sylvanus, militant de base du PPACI, Parti des Peuples Africains de Côte d'Ivoire.
J'ai resté 10 ans au Ghana, quand j'ai revenu, il fallait rencontrer les populations. Des gens qui ont prié pour moi, qui se sont inquiétés pour moi. Je suis un homme de rassemblement, je suis un homme de paix. C'est vraiment rassembler les têtes fortes de San Pedro pour qu'ensemble on aille pour travailler pour la population de San Pedro. Il y a tellement de choses à faire ici. L'assainissement à San Pedro, ça doit être une priorité. Chaque maire doit terminer son bilan en ayant fait un certain nombre de kilomètres de caniveaux. Faire en sorte que cette puanteur dans certains quartiers due à de l'eau sale, que ça puisse disparaître. Maintenant, naturellement, il ne suffit pas d'avoir des caniveaux. Il faut aussi faire en sorte qu'ils ne soient pas bouchés. Il faut donc les curer.
Pour Claes Sylvanus, quand la tête se porte bien, le reste du corps également se porte à merveille. Raison pour laquelle il faut que les présidents Henri Konan Bédier, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara maintiennent allumée la flamme de la paix.
Là, vous savez, les trois grands sont les trois grands. Quand ça va chez eux, ça va. Donc on prie tous pour que ça aille là-bas. Il faut qu'ils se réunissent, il faut qu'ils se rencontrent pour faire avancer la Côte d'Ivoire, pour faire avancer la paix en Côte d'Ivoire. Et nous, au niveau de San Pedro, on doit faire en sorte que la population puisse avoir un cadre de vie agréable. Nous sommes dans l'opposition. Nous sommes quand même en position de faiblesse. Nous n'avons pas le pouvoir avec nous. Nous n'avons pas la force avec nous. C'est quand même pas nous qui allons être les premiers à provoquer.
Et donc le souhait de Claes Sylvanus, c'est que les élections à venir se déroulent dans un climat apaisé. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
En Côte d'Ivoire, les alliances interethniques peuvent être de puissants vecteurs de règlement de conflits et de cohabitation pacifique entre les différentes communautés, surtout à Divo, ville enclin à des violences endémiques. Pour le président de l'ONG Cercle des alliances interethniques Côte d'Ivoire, Kedi Luc, il fait savoir que les alliances interethniques gagneraient à être réactivées partout en Côte d'Ivoire. Le point de cette rencontre avec notre correspondant régional, Abel César Kassa.
Après Mankono, point de départ en 1996, Touba, Daloa et San Pedro, le fondateur de l'ONG Le Cercle des Alliances Interethniques Côte d'Ivoire fait entendre désormais sa voix à Divo. localité d'une instabilité endémique. Luc Kedi.
Nous avons toutes les communautés des alliances qui vivent dans le Lodjibois, qui vivent à Divo. Nous disons sec des alliances parce que même les Didas entre eux, alliés avec les autres, cela rejoint toutes les autres alliances qui sont dans le pays.
Selon toujours le président du Cercle des Alliances Interethniques Côte d'Ivoire, les Ivoiriens détiennent un instrument de paix à réactiver et à valoriser partout.
C'est un frein naturel, en fait. Si tu te rappelles que c'est ton allié, automatiquement, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Ce que nous voulons faire, c'est d'installer les sections dans tout le pays.
Le président de la coordination de la société civile du Lodjibois estime pour sa part que bien des crises peuvent être évitées si les alliances interethniques sont connues de tous. Lobo Boké Kevin.
Particulièrement pour le Lodjibois, je pense que si ces alliances sont valorisées, parce que le Lodjibois a une population cosmopolite, la plupart des ethnies se trouvent ici à Divo. Et surtout avec cette association des différents chefs des communautés qui se sont mis ensemble pour créer une association, si ces alliances étaient connues de tous, les choses pourraient se régler plus facilement et il y a des conflits qu'on n'a pas connus ici dans le Lodjibois.
L'ONG manque de fonds cependant pour étendre son projet à tout le pays. De Divo, Abel César Cassin, Radio de la Paix.
Sécurité, l'opération spéciale Épervier a livré ses premiers résultats partiels et ce, moins de deux semaines après le lancement de cette opération à Yamoussoukro. Plus d'une quarantaine de malfrats interpellés, une dizaine de kilogrammes et de doses de stupéfiants ainsi que de nombreuses armes blanches et à feu saisies. Ce sont entre autres quelques chiffres livrés par la préfecture de police de la ville. On fait le point avec Émilie Yao.
Lancée le 6 mai dernier à la faveur de l'inauguration du 3e commissariat de la ville, l'opération spéciale Épervier regroupant l'ensemble des forces de sécurité de la cité a d'une part permis de rafler 343 individus, d'interpeller 44 malfrats, de détruire 8 fumoirs à recoloniser, de saisir 28 doses de cocaïne, 18,1 kg de cannabis, de nombreuses armes blanches et deux armes à feu, dont une Kalachnikov, et d'autre part de contrôler 123 véhicules à vitres teintées ou plaques banalisées et de saisir 18 motos sans pièces ou volées. Des résultats plus que flatteurs réalisés en une dizaine de jours qui ont fait réagir le directeur général de la police nationale, le général Youssouf Kouyaté, lors de sa visite de terrain le 15 mai dernier.
Nous sommes très heureux, mais ces données numériques, ce qui est important, c'est le sentiment de sécurité qui règne. Les gens ont compris que la police, en synergie avec les autres forces, ont maillé le territoire de Yamoussoukro, de sorte que rien ne puisse se passer, c'est ce qui est important.
Un sentiment de sécurité que veut renforcer c'est le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, Augustin Thiam.
En effet, nos populations ont droit à se sentir en sécurité. C'est pour cela que le conseil du district ambitionne dans un avenir plus ou moins court de construire un 4e commissariat pour renforcer la sécurité dans cette ville historique et mythique du président Félix Houphouët-Boigny.
Une ville jadis paisible est désormais en proie à l'insécurité que veut combattre farouchement le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé. Émilie Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Encore un autre effondrement d'immeuble et cette fois il s'agit d'un R+4 en construction dans la commune de Cocody. Les faits se sont produits récemment au quartier Angré à Bessicois dont les habitants continuent toujours de s'interroger sur les effondrements d'immeubles malgré les mises en garde, les campagnes de sensibilisation, les dispositions légales, la mise en place d'une brigade mobile. Existe-t-il des sanctions en la matière? Alors pourquoi ne les applique-t-on? Pourquoi ne les applique-t-on pas? Pourquoi les responsabilités ne sont-elles pas engagées de part et d'autre? Élément de réponse avec Amon Joseph, le président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire.
Il y a toute une série de causes qui peuvent entraîner ces différents effondrements. Et là, j'arrive maintenant à me poser moi une nouvelle série de questions. Quelles sont les responsabilités, directes ou indirectes, aussi bien des propriétaires, des professionnels que nous sommes, à savoir les architectes, les ingénieurs, les entrepreneurs également qui interviennent dans l'ordre de réalisation de ces différents ouvrages, les administrations. Et c'est la question aujourd'hui qui pourrait être posée véritablement et nous amener à faire une analyse vraiment beaucoup plus profonde de la situation, parce que tel que c'est parti, est-ce qu'il n'y aura pas encore, avec les pluies qui arrivent, de nouveaux effondrements, avec de nouveaux drames? Aujourd'hui, il serait peut-être opportun que tous les professionnels se réunissent autour d'une table, mais également et surtout l'administration, parce qu'il y a une responsabilité qui est nôtre et nous devons la conjuguer ensemble afin de pouvoir repartir sur de nouvelles bases. La sensibilisation, sans avoir atteint ses limites, eh bien, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un autre chemin qu'il va falloir emprunter. Lorsqu'on va constater qu'il y a des ouvrages qui se réalisent sans permis de construire, et malgré les rappels de l'administration, les différents corps de métier, sans être à vouloir continuer à réaliser leurs projets sans permis de construire, sans être accompagnés par des véritables professionnels formés et qualifiés, eh bien, il faut détruire leur bâtiment.
Amand Joseph, le président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Nous le disions en titre, quelle responsabilité des activistes, blogueurs et influenceurs dans la diffusion des contenus audiovisuels en ligne. C'est autour de ce thème que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, HACA, a organisé le mercredi 17 mai une table ronde à Eden Golf Club dans la commune de Cocody. À quel souci obéit une telle rencontre? La réponse avec Maître René Bourgoin, président de la HACA.
Nous savons tous que les réseaux sociaux sont un espace de liberté. Et en tant que tel, tout le monde ne peut qu'adhérer à ce vivier de vie démocratique. Mais en même temps, les réseaux sociaux contiennent beaucoup de dérives très, très, très importantes. Et il importe de pouvoir, à défaut de stopper, mais minimiser les conséquences de ces dérives. Et donc, c'est pour cela que dans tous les pays du monde, les régulateurs de la communication audiovisuelle s'interrogent sur les moyens à mettre en œuvre pour que les plateformes numériques soient régulées. En Europe, il s'est agi du Digital Service Act, ou plus précisément maintenant, le règlement européen sur les services numériques. En Côte d'Ivoire, il y a une loi qui prévoit la prise en compte des blogueurs, activistes et influenceurs de plus de 25 000 abonnés. Donc, à partir de ce moment-là, la nécessité de discuter avec les concernés, discuter avec les plateformes elles-mêmes, devient absolument primordiale. Et c'est pour ça que nous avons, au niveau de l'HACA, entrepris de discuter avec les plateformes numériques. Mais comme ce sont des plateformes qui ne souhaitent pas qu'il y ait de communication autour de leurs actions de ce genre. Et également, il s'agissait de discuter avec les influenceurs, blogueurs et activistes. Instruire ces activistes, blogueurs et influenceurs sur leur responsabilité dans la diffusion de contenus audiovisuels sur le net.
Maître René Bourgoin, président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, HACA. Cérémonie de pose de la première pierre du marché moderne de Vivrier de Blagouin, un village du département de Biankouma. La mutuelle de développement économique et social du dit village entend fédérer toutes les tendances pour relever le niveau de développement du dit village en comparativement à ceux des villages environnants. Des détails avec Stéphane Adams, correspondant dans la région du Tonkpi.
Blagouin en liesse étaient réunis ce jour les populations du dit village et quatre venus prendre part à cette cérémonie pour la même cause. La motivation avec Singo Olivier, président du comité d'organisation.
Votre présence à cette cérémonie, la construction du marché moderne de Blagouin, suppose de la première pierre de notre marché, qui est notre engagement commun à sortir notre village de sa léthargie actuelle à travers des actions concrètes pour promouvoir le développement de Blagouin. C'est le ministre, président du conseil régional, cela témoigne surtout de l'intérêt que vous accordez aux grands défis qui sont les nôtres et à nos efforts inlassables pour nous aider à la construction du second bâtiment de trois classes de l'école primaire, l'état de délabrement très avancé et la construction d'un cadre de spectacle et de réunion pour nos parents.
La marraine, pour sa part, et à juste titre, s'est félicitée du choix de sa personne. Gueye Senga Murey Chantal, député de la circonscription électorale de Biankouma, sous-préfecture.
Et sa stabilité. Monsieur les imams, je voudrais ici vous dire merci de m'avoir choisi. Ici à Blagouin, on a de la banane. On a tout ici à Blagouin, un marché pour nos mamans, avec l'aide du président Albert Fabrice-Boisclé, qui porte un marché à nos mamans. Aujourd'hui, je suis très, très heureux.
Toutefois, la marraine a promis de rendre compte fidèlement des doléances à qui de droit. Stéphane Adams, Blagouin, Radio de la Paix.
Parlons santé dans ce journal. Le 17 mai de chaque année est célébrée la journée mondiale contre l'hypertension artérielle. C'est le 14 mai 2005 qu'a été décrétée la journée mondiale de l'hypertension artérielle par la Ligue mondiale contre l'hypertension et elle a pour objectif de sensibiliser le grand public sur la gravité et les complications médicales qu'entraîne cette maladie. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a commémoré l'édition 2023 autour du thème « Je dois connaître ma tension à la maison ». Jean-Claude Mabéa nous propose son reportage. davantage.
Dans le monde, il y a 1 milliard de personnes qui souffrent d'une hypertension artérielle.
Extrait du message de Dr Jean-Marie Vianney Yameogo, représentant pays de l'OMS.
Il y a près de 500 millions qui ignorent qu'ils ont l'hypertension artérielle. Et l'hypertension artérielle est aussi la première cause de mortalité subite. Donc voilà le défi. Sachez que cette journée, c'est une journée de sensibilisation.
C'est d'ailleurs pourquoi le professeur Bénédicte Boka de l'Institut de cardiologie d'Abidjan a rappelé les signes de cette maladie lors de sa conférence sur le thème « Actualité sur l'hypertension artérielle, le tueur silencieux ».
L'hypertension artérielle est qualifiée de tueur silencieux parce que la plupart du temps, elle est asymptomatique. Donc, elle est découverte à l'occasion de complications. Mais parfois, il y a des patients qui vont signaler des céphalées, des maux de tête. Certains vont avoir des vertiges, des bourdonnements d'oreilles ou des saignements au niveau des narines. Ce sont des signes qui peuvent amener le patient à mesurer sa pression artérielle et à être pris en charge.
Vu la gravité de cette maladie ignorée par la majorité des populations, le représentant pays de l'OMS a donc lancé cet appel. Docteur Jean-Marie Vianney Yameogo.
Pour demander aux uns et aux autres de vérifier très souvent les chiffres. C'est un geste qui est simple.
À signaler que cette journée mondiale contre l'hypertension artérielle a été marquée par une séance de dépistage du personnel de l'OMS et du grand public.
Hors des frontières de la Côte d'Ivoire, processus électoral en cours en RDC. Au cours d'une conférence de presse hier jeudi à Kinshasa, le comité laïque de coordination a énuméré ce qu'il considère comme anomalie à corriger rapidement. L'organisation qui était en première ligne dans les manifestations politiques de 2018 revient à la charge cette année encore et promet de nouvelles manifestations afin, dit-elle, de faire entendre l'exigence du peuple souverain lors de la tenue des élections. Le comité laïque de coordination accuse le gouvernement de s'être transformé en plateforme électorale au profit de Félix Tshisekedi. Il a fait allusion au regroupement politique Union Sacrée qui est dirigé par les animateurs de principales institutions du pays. Aussi, le dit comité critique la durée et le procédé choisi par la CENI pour organiser l'audit externe du fichier électoral. L'invité de la rédaction de ce vendredi est Keïdé Jean Gervais, député de Bloléquin, par ailleurs vice-président du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, PPACI. L'élection des conseils municipaux et des conseils régionaux prévus pour le 2 septembre prochain en Côte d'Ivoire. Et tout comme certains partis de la scène politique nationale, le PPACI est déjà dans la fièvre des préparatifs de ce rendez-vous important. Et ce parti politique a annoncé en début de mois la création d'un organe de lutte contre la fraude électorale dénommé la SAF, Sentinelle Anti-Fraude Électorale. L'honorable Tshisekedi Jean Gervais, sur cet organe, répond aux questions de Soro Adams.
Bonjour, honorable Tshisekedi Jean Gervais.
Bonjour.
Le PPACI vient de lancer, dans la perspective des élections à venir en Côte d'Ivoire, la Sentinelle Anti-Fraude Électorale. Présentée aux Ivoiriens, que diriez-vous?
Eh bien, nous dirons que la fraude électorale est un comportement antidémocratique. Et donc le PPACI, le parti du président Laurent Gbagbo, qui a toujours voulu des élections démocratiques, c'est-à-dire des élections transparentes, crédibles, s'apprête à aller compétir pour les élections locales à venir. Et donc, en prélude à cela, le parti a voulu donner un signal à l'opinion nationale et internationale quant à sa volonté de voir les élections se dérouler en Côte d'Ivoire de façon normale, des élections crédibles. Et donc, nous avons mis en place les sentinelles anti-fraude électorale pour être une structure de veille et d'éveil qui va anticiper sur les irrégularités qui précèdent les préparatifs des élections, qui va s'employer à dénoncer les pratiques frauduleuses au cours du scrutin, et qui va soutenir les candidats, notamment lorsqu'il s'agira de contentieux électoraux devant les tribunaux, pour faire simple. Donc, l'objectif, c'est de faire en sorte que les élections se déroulent dans des conditions transparentes et que, au soir du scrutin, le vainqueur soit celui qui a réellement gagné et qu'il soit félicité par le vaincu ou les vaincus.
Mais de quels moyens dispose cette sentinelle anti-fraude électorale?
Alors, des moyens humains. C'est-à-dire que les militants et les candidats seront mis à contribution pour repérer les pratiques frauduleuses et les dénoncer et d'utiliser les voies et moyens légaux prévus par la loi pour empêcher toute irrégularité et toute fraude. Et donc les moyens sont des moyens humains. C'est d'abord nos militants, ensuite les candidats eux-mêmes qui sont invités à faire connaître auprès de cette structure toutes les irrégularités en amont, pendant le scrutin et même en aval qui pourraient être observées.
Honorable Tchédé Jean-Gervais,
oui.
C'est quoi une fraude électorale? Comment peut-elle se décliner?
La fraude électorale, c'est un comportement, ce sont des pratiques qui sont en contradiction avec ce que la loi électorale prévoit. Lorsque, par exemple, sur la liste électorale, on inscrit des personnes qui n'ont pas le droit d'y figurer, c'est une tentative de fraude électorale. Elle est en amont du scrutin. Lorsque on force les règles du jeu électoral pendant le scrutin, en empêchant, par exemple, certains électeurs d'accéder au lieu de vote, en faisant en sorte qu'on achète les consciences, en faisant en sorte qu'on inscrive plus d'électeurs que ceux qui ont réellement voté et qu'on fait le bourrage des urnes, eh bien, ça, c'est de la fraude. Parce qu'on force le résultat et on contrarie la volonté du citoyen qui a voté, qui a fait son choix. Et on modifie le choix de l'électeur consciemment pour obtenir un résultat qui n'est pas celui que les électeurs ont voulu. En clair, quelqu'un se porte candidat et puis il achète les consciences et il remplit des procès-verbaux de façon illégale, par exemple avec la complicité soit des agents électoraux ou alors des autorités de la commission électorale, consciemment ou inconsciemment en tout cas. Et donc, c'est de la fraude. Donc, la fraude est un comportement illégal, illégitime, qu'il faut combattre par tous les moyens légaux.
Vous avez dit la fraude en amont, la fraude pendant l'élection et la fraude en aval. Comment se décline-t-elle?
La fraude en aval, c'est celle qui modifie les résultats du scrutin. C'est-à-dire que M. X a obtenu tant de voix, M. Y a obtenu tant de voix, et puis le dépouillement a été fait dans le bureau de vote. Et entre le bureau de vote et la commission électorale, au moment de faire la compilation pour consolider les résultats, il y a des modifications. Il y a des ratures, on change les chiffres sur les procès-verbaux. Et comme c'est les procès-verbaux de la CEI, donc des présidents des bureaux de vote, qui font foi, on rentre donc dans un contentieux et on dit, bon, écoutez, comme vous ne vous entendez pas, eh bien, on va aller au Conseil d'État. Et quelque part, en aval, là-bas, les candidats ont la surprise d'apprendre que celui que les électeurs ont élu dans les urnes, ce n'est pas celui qui est proclamé vainqueur. Ça, c'est une fraude.
Et en conclusion, donc, honorable Tchédé Jean-Gervais.
Eh bien, nous voulons être vigilants. Le PPACI veut être vigilant. Les militants du PPACI doivent être vigilants. Les candidats du PPACI doivent être vigilants pour dénoncer toutes les tentatives de fraude, d'où qu'elles viennent, qu'elles soient avant, qu'elle soit pendant ou qu'elle soit après les élections.
Je vous remercie, honorable Tchédé Jean-Gervais.
C'est moi qui vous remercie.
Tchédé Jean-Gervais, député de Bloulékin, par ailleurs vice-président du PPACI, répondait à Soro Adams. Fin de ce journal, le rappel de l'essentiel. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire prône le rassemblement, la cohésion sociale et les relations empreintes de respect à San Pedro pour le développement de la région. Lors d'un point de presse, Classylvanus a dit vouloir mettre tout en œuvre pour éviter des troubles lors des prochaines élections municipales et régionales. Des activistes, blogueurs, influenceurs et représentants de la police scientifique ont été sensibilisés et instruits sur les responsabilités en matière de diffusion des contenus audiovisuels en ligne. C'était au cours d'une table ronde initiée le mercredi 17 mai par l'AACA. Fin de ce journal, la rédaction sera de retour à 15h pour le flash. L'information continue avec la revue de presse présentée par Didier Blé.
Bonjour à tous. La politique occupe une place de choix dans nos différents tableaux.